ormai l'occasione orientale. Si è riuscito totalement ce qui
se dit. Moi, j'ai fait des diplomaties au passage, en combinant les deux, c'est-à-dire de mes présidents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de nous recevoir chez vous, mesdames et messieurs. Le décès, mercredi 1er février 2017 d'Étienne Tshisekedi à Bruxelles, en Belgique, continue à dominer l'actualité en République démocratique du Congo et ailleurs. Plusieurs dirigeants étrangers saluent la mémoire de l'opposant congolais que certains d'entre eux qualifient de figure politique emblématique de la République démocratique du Congo. Pour vous alors, qui est Étienne Tshisekedi, que retenir de son long combat politique et surtout comment capitaliser les acquis de cette lutte. À l'adresse pa@radiocapi.net, vous pouvez nous rejoindre et nous appeler directement au 081 890 7315. Vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook pour débattre avec nous, et d'ailleurs sur notre page Facebook se tient également ce débat. Merci à vous tous qui avez déjà participé à cet échange citoyen depuis hier sur notre page Facebook. Vous êtes nombreux à avoir consulté ce message et là nous avons les statistiques. C'est plus de 2000 personnes qui ont commenté au fait ces sujets. À l'adresse donc PA, j'ai dit, vous pouvez participer à cette émission. Sylvain Matondou est à la mise en onde, Pierre et la Mégie à la réalisation de cette émission, Julie Fezabongonda sur les standards de ce programme supervisé par Martin Sebujangwe et coordonné et présenté par J.R. Lungembo Luabung Anji. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs, pour participer, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Nguembo.
Didier Serge Moussanga de Kinshasa nous dit que pour lui, Tshisekedi est une pensée. Glody Sibaluira pense qu'il faudrait aller plus loin, à dire même qu'il s'agit là d'un père de la démocratie, une bibliothèque brûlée de l'histoire politique du Congo et de l'Afrique, l'homme des idéologies multiples. Peter Katumwa à Kananga lui parle plutôt des pères de la démocratie congolaise et jusqu'à en mourir sur les champs de bataille pour la recherche de la paix. Hilaire Tendai dit ceci, le président Étienne Tshisekedi est un mythe et un monument vivant, je parle au présent. John Kalenga à Mbujimayi dit ceci, Tshisekedi, l'homme fort, notre modèle à suivre et nous continuerons sur cette lancée. Renchéri Jean Calvin solide qui parle de la lutte incorruptible. Mesdames et messieurs, merci encore à vous tous qui avez déposé ou posté vos commentaires sur notre page Facebook. Paulin, vous nous avez rejoint à ce débat, à ce niveau du débat. Voilà, Paulin, vous êtes avec nous à Isiro, vous gardez la ligne. Nous recevons d'abord l'ambassadeur Kema Lilo, l'ancien dignitaire de la Deuxième République. Ambassadeur Kema Lilo, bonjour.
Bonjour messieurs.
Voilà, d'entrée des jeux, aujourd'hui, qu'est-ce que vous ressentez, vous, en ce moment, lorsqu'on a annoncé les décès de Sax Nelimete ou encore le président de l'IDPS?
Bon, je ressens une grande douleur et un grand regret pour cet homme que j'ai connu aussi personnellement. Parce que j'ai été dans les discussions, dans les négociations avec lui lorsque je travaillais aux côtés du président Mobutu. Donc je le connais personnellement.
Alors, pour avoir été conseiller spécial de Maréchal Mobutu et avoir participé comme ambassadeur à New York, de la RDC à New York et puis à Londres, vous avez assisté pratiquement à cette période de crise ou la période où la République démocratique du Congo s'était engagée dans sa phase de la démocratisation. Et comment ça se passait concrètement, les passerelles entre le président Mobutu et Tshisekedi, qui était pratiquement présenté comme deux antagonistes?
Oui, c'est vrai. Votre question est bien précise. Et j'ai été personnellement cette passerelle-là. Beaucoup de gens de son entourage me connaissent. J'ai été cette passerelle-là parce que c'est moi qui ai souvent négocié avec lui. C'est quelqu'un qui se laissait pas intimider par n'importe quoi, mais c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui voulait la vérité, c'est quelqu'un aussi qui ne se laissait pas corrompre. D'un côté, il s'entendait bien avec le président Mobutu parce qu'il se connaissait, il venait ils avaient fait beaucoup de choses ensemble, mais lorsqu'il avait pris sa position de ne plus suivre le président Mobutu, eh bien, je crois que personne ne pouvait l'en détourner.
Est-ce qu'à un certain moment, vous n'aviez pas, vous, les collaborateurs de Mobutu, ressenti un peu cette menace qui les caractérisait, en fait, par rapport à le pouvoir que vous détenez? Est-ce qu'il ne constituait pas une menace pour le pouvoir, à l'époque-là?
Ouais, pour dire la vérité, oui. Pour dire la vérité, oui, il constituait une menace, parce qu'à cette époque, le président Mobutu ne voulait pas avoir... un concurrent, et il le ressentait comme tel. Il le ressentait comme concurrent. Mais ce n'était pas son objectif, à mon avis, ce n'était pas son objectif de prendre le pouvoir, de reprendre le pouvoir au président Mobutu. Son objectif était, à cette époque-là, de faire en sorte que le pays entre dans la démocratie, qu'on ait une démocratie, que le président Mobutu accepte qu'il y ait une contestation, qu'il y ait un autre parti qui soit concurrent du MPR.
Alors, vous avez évoqué parmi les qualités, son caractère un peu intransigeant, il ne se laissait pas intimider, et je crois que l'image qui reste encore pour ceux de cette génération, et même les générations qui sont arrivées après, c'est lorsque il a biffé la maximation, la constitution, après plusieurs négociations. Est-ce que vous pouvez un peu nous faire revivre un peu cette période-là? Qu'est-ce qui s'était réellement passé?
Oh mon sang, c'est un fait précis. Je crois que la personne qui pourrait parler précisément de ça, c'est mon collègue et ami à l'époque, le professeur Mundawe. Lui était de près associé à ce... à cette histoire-là, vous pourrez lui demander s'il peut témoigner. Voilà.
Alors, vous avez évoqué des qualités, mais alors, qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui de ce combat? Vous l'avez dit, vous avez évoqué la vérité, et également celui qui ne se laissait pas corrompre. Alors, vous pensez que dans les jours à venir, il y a possibilité réellement que la jeune génération, la jeunesse actuelle, puisse capitaliser ses acquis?
Oui, absolument. La jeunesse actuelle peut capitaliser cet acquis à condition de, un, d'abord bien connaître l'histoire, ensuite savoir que celui qu'on appelle 5 de l'unité, le président Tshisekedi ne cherchait pas à prendre le pouvoir de Mobutu, surtout pas par la force, mais que c'était un homme, il voulait la démocratie, et rien que la démocratie, voilà. Il voulait la tolérance, et rien que la tolérance.
Est-ce qu'il n'y avait pas une certaine complicité entre Mobutu et Tshisekedi par rapport à l'histoire, vous qui étiez vraiment dans les secrets des dieux? Est-ce que vous pouvez préciser un peu les choses pour les générations futures?
mais la complicité a existé bien avant que
qui se sépare en 83 ou début des années 80.
Oui, mais ils ont fait beaucoup de choses ensemble, ça vous le savez. C'est
tout à fait,
l'histoire.
La constitution de la Deuxième République.
Oui, ça c'est l'histoire. Mais à partir du moment où M. Tshisekedi a réalisé qu'il fallait pour la démocratie, il fallait deux ou plusieurs partis politiques dans le pays, à partir de ce moment-là, ils n'étaient plus d'accord, tous les deux.
Alors, nous avons assisté, avant peut-être d'ouvrir les standards et accueillir les auditeurs qui nous ont rejoints à ce niveau du débat, ambassadeur Kemalilo, vous êtes l'ancien ministre de la Deuxième République, plusieurs fois ambassadeur, notamment à New York et puis à Londres, et vous avez terminé votre carrière politique, aux côtés de Mobutu comme conseiller spécial. Est-ce que vous pouvez nous dire toutes les stratégies utilisées par le président Mobutu pour déstabiliser nos position en débauchant quelques personnalités? Est-ce que vous avez eu sûrement le temps, en faisant toujours cette passerelle, de voir un peu l'attitude? Comment se comportait en ce moment-là Tshisekedi? Se sentait pas seul contre tous?
Bon, j'ai mal dans ma peau, comme si vous me présentez toujours comme quelqu'un de la Deuxième République, parce que j'ai été moi-même accusé, et tous les l'entourage de Tshisekedi le sait, j'ai été moi-même accusé comme quelqu'un de l'UDPS. Mm-hmm. Et je pense que tout le monde, ceux qui me connaissent...
Tout à fait, l'histoire c'est bon.
L'histoire le fait, j'ai été accusé moi-même comme quelqu'un de l'UDPS, parce que je faisais un peu le relais auprès du président Mobutu, des thèses, non seulement de l'UDPS, mais de l'opposition.
Mmh. Voilà. Alors, ce mécanisme mis en place pour débaucher, est-ce que, bon, ça n'a pas, au fait, créé un sentiment, par exemple, de déception du côté du président de l'UDPS, ou qui commençait déjà à se sentir un peu isolé? Lorsqu'on a pris Birindoa, lorsqu'on a pris, en tout cas pratiquement, Mbakem et les autres.
Non, c'était pas un problème de débauchage qui était organisé pour ça. Mmh. Moi, je n'ai jamais participé à ce débauchage. Je vous dis que j'étais considéré moi-même comme
déjà
quelqu'un de l'UDPS.
Voilà. Alors, ambassadeur, nous vous gardons à l'île, il est temps d'ouvrir les standards et accueillir les auditeurs. Vous allez écouter les uns et les autres qui vont également venir faire témoignage, rendre hommage au président de l'UDPS, Étienne Tshisekedi, qui s'en est allé depuis le mercredi 1er février 2017. 081-890-6315 pour votre intervention en direct.
Parole aux auditeurs.
Pauline, vous êtes ici. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour mon frère et bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Voilà, Pauline, vous avez suivi l'ambassadeur Kemalilo qui a évoqué des qualités qu'ont possédé le président de l'UDPS, qui ne se laissait pas intimider, qui avait toujours la vérité en lui, et puis qui ne se laissait pas corrompre. Est-ce que vous pensez que ces qualités aujourd'hui, qui sont considérées comme des acquis, peuvent être capitalisées par la génération future?
Merci beaucoup pour la question. Je présente d'abord mes condoléances à toute la population de la RDC et également à toute la famille biologique du président Étienne Tshisekedi. Pour répondre à votre question, je crois que tout dépend de nous Congolais et surtout de la jeunesse congolaise. Parce que la jeunesse congolaise est appelée à connaître l'histoire, comme vient de le dire l'ambassadeur Kema. Et donc on ne doit pas penser vite que entrer dans le monde politique signifie tout simplement aller chercher de l'argent. parce que c'est ce qui captive plus la jeunesse congolaise et pourquoi pas toute la population congolaise. Et ceux qui n'ont pas de boulot, ceux qui ne trouvent rien comme travail, préfèrent aller dans le monde politique parce que là, on trouve facilement l'argent, mais sans avoir une vision claire. Et vous avez constaté avec moi que M. Tshisekedi, c'est un homme de constance. Et donc, il est entré dans le monde politique avec une vision claire, vision qui consiste à changer la situation politique de son pays, à changer la gouvernance. Donc, il voulait à tout prix que donc, notre pays soit réellement un État démocratique et non pas être là tout simplement pour chercher comment gagner sa vie facilement en entrant dans le gouvernement. Ce qui est très très important, si la population congolaise, si la jeunesse congolaise comprend que la politique, c'est un monde là où on y entre pour servir la population, servir l'intérêt général, je crois que pour capitaliser les acquis du président Étienne Tshisekedi ne sera pas un problème. Mais ça sera difficile si on pense que non, ce n'est pas pour lutter pour l'intérêt général, mais c'est pour chercher l'intérêt égoïste.
Alors, Paulin, est-ce que vous pensez comme les autres que dans sa lutte, il a pu faire l'essentiel, ce qu'il fallait? Je crois que si vous étiez demandé de donner une mention par rapport à ce travail, parce que vous l'avez dit, avec une grande vision, vous estimez qu'il a quand même amené à bon port dans sa lutte son objectif, a atteint quand même son objectif?
Pour moi, je crois que le travail qu'a fait le président Étienne Tshisekedi, ce n'est rien d'autre que le travail qu'a fait Moïse. Donc Moïse n'a pas pu accéder à la terre promise, Moïse s'est limité à Michelin. Donc, mais il a vu la terre promise de loin. Dieu lui a montré la terre promise de loin. Donc lui ne pouvait pas accéder à la terre promise. Donc le travail qu'a fait le président Étienne Tshisekedi, c'est pratiquement ça, nous sommes tout près du gouvernement qui va nous amener aux élections, mais lui, il n'a pas vu ce gouvernement. Mais quant à moi, je préfère que ce gouvernement puisse voir les jours avant qu'on organise les obsèques pour ces grands hommes. Donc, ça sera comme un mécanisme qui consiste à couronner ses efforts dans notre pays, au lieu de l'enterrer avant donc et chercher à mettre sur pied ce gouvernement après son enterrement.
Merci.
C'est pas une bonne chose parce que certaines personnes ou certains caciques croient que la mort du président Étienne Tshisekedi, ça va ouvrir la voie pour essayer de trop tuer ce qu'ils ont l'habitude de penser.
Merci beaucoup.
Je crois que cette mort va nous donner encore la force et l'avantage pour que nous puissions lutter et continuer avec la lutte.
Merci beaucoup, Paulin, d'avoir appelé les Siro. Pour vous, un grand visionnaire, contrairement à la génération actuelle, qui, en fait, accède parfois dans la gouvernance juste pour des raisons de lucre, ça ce sont vos propos. Et puis il y a un homme de conscience, hein, c'est comme ça que vous qualifiez Étienne Tshisekedi. Alors pour qu'on arrive aujourd'hui à capitaliser ces acquis, vous souhaitez vraiment que les choses aillent vite et que les avancées déjà réalisées puissent être consolidées afin de pouvoir honorer sa mémoire. Merci beaucoup. Maître Olivier, vous êtes à Guadeloupe, bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour, monsieur Gilles, et bonjour également aussi à l'invité.
Quelle est votre contribution à ce niveau du débat?
Oui, bon, en fait, monsieur Gilles, c'est un grand regret pour nous, peuple congolais, puisque nous avons perdu un grand baobab quand même de la démocratie dans notre pays. Vous savez, des hommes politiques, il y a toujours de bons côtés, il y a aussi toujours de mauvais côtés. Le bon côté, il faut chercher à prendre et puis à retenir. Dans le mauvais côté, il faut chercher un peu à écarter. Mais dans le bon côté de Tshisekedi, Tshisekedi a été quand même un homme courageux, souple. En fait, il a passé plusieurs années en prison au nom et à l'intérêt du pays. Il a été parmi les 13 parlementaires qui avaient opposé au régime mobutiste en 1980. C'est quand même un acquis quand même à retenir. Il avait un acquis de leader. Il avait une analyse quand même de la politique d'envergure axée sur l'intelligence phénoménale quand même. Il a fait une capacité d'obstination, vous savez, il a été dans l'esprit de répéter toujours la même chose qu'il disait. c'est-à-dire une échange, il n'échange pas son avis, pas c'est à, peut-être à l'argent, mais ce n'était pas corrompre. À mon avis, il avait l'esprit de la politique de Nelson Mandela quand même. Vous savez, il était quand même un homme, qui laissait écarter sur son chemin la politique du ventre. Vous savez, on a fait qu'on passe que devenir un politicien, c'est juste pour pratiquer la politique du ventre, viser les intérêts pécuniaires, plus que les intérêts de la population. Mais lui, il ne s'est pas laissé faire dans cet esprit. Il avait suivi le combat vraiment de la démocratie. Il avait vraiment l'esprit dans l'idée.
Oui, alors, comment capitaliser?
Oui, au départ de son acquis, il a essayé quand même de respecter la démocratie, il avait l'esprit du respect des textes. Bon, de son mauvais côté, il faut savoir que la politique dont on parle aujourd'hui, c'est une politique mouvante. La politique n'est pas statique. Moi, je pense que dans le mauvais côté, c'était dit, mais ce n'était pas écouté face à des problèmes. Vous savez, la démocratie, la politique de la Première République est totalement différente de la politique de la Troisième République. Il faut aussi savoir aussi se laisser écouter. Parce que quand on ne se laisse pas écouter, on risque aussi d'entraîner la population à des massacres face à des mots d'ordre de meeting. Alors ça ne sonne pas tellement très bien. Pour à mon avis, pour essayer de capitaliser les acquis de M. Tshisekedi, il faut d'abord apprendre la population à connaître l'histoire. À connaître l'histoire des hommes qui ont essayé de se battre pour l'intérêt de la démocratie dans notre pays. Il faut aussi de chercher quand même à insérer dans l'histoire de notre pays de bon côté des hommes politiques, de leaders politiques tels que Tshisekedi, ses acquis,
voilà.
À ne pas céder à la politique du ventre. Ça pourrait aussi permettre à ce que la population puisse comprendre les acquis.
Et aussi
de mettre en pratique l'accord du 31 décembre. Ça peut permettre qu'on doit comprendre la ligne de Tshisekedi, il n'a pas abouti en vain quand même. Il n'a pas prêché dans le désert, ou du moins, il a abouti à quelque chose. Ça peut donner quand même confiance
Merci beaucoup, Olivier. Merci, Olivier. Vous avez évoqué les deux côtés que vous estimez les points forts de la lutte de Tshisekedi et puis la faiblesse de cette lutte. En évoquant les points forts, vous avez insisté beaucoup plus sur son aspect, le caractère intelligent qui incarnait cet homme. Il était courageux et il était incorruptible. Et voilà, et avec une constance qui était vraiment son cheval de bataille. Et vous l'avez comparé d'ailleurs à Nelson Mandela qui est décédé sans pour autant entrer dans une certaine richesse ou encore les luxes. Mais voilà, mais du côté, le mauvais côté ou la faiblesse que vous avez évoqué en disant que l'homme n'a pas pu faire la ligne de démarcation entre les époques, la colonisation, le communisme qui avait dominé pratiquement la période de la Deuxième République et puis la perestroïka qui est arrivée à un certain moment et aujourd'hui la démocratie qui appelle aussi, c'est vrai, l'échange d'idées, mais aussi sa adapter la lutte par rapport à cette réalité. Merci beaucoup. Sylvain, vous êtes à Bounia. Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous donnez raison tout à l'heure à Olivier qui, évoquant la faiblesse de la lutte, en insistant beaucoup plus sur les contextes dans lesquels évoluait le président de l'UDPS, qui n'a pas pu faire la lutte des démarcations entre les époques, la colonisation, le communisme, la perestroïka et aujourd'hui la démocratie?
Oui. Peut-être avant que je ne puisse dire quelque chose, monsieur le journaliste, permettez que je transmette un message de condoléances le plus affecté à la famille biologique du président de la République, mais aussi à sa famille politique. Mes observations sont un peu contrariées dans quel sens, puisque vous savez, les sièges, il y a au moins deux ou trois événements majeurs qu'il faut retenir. Sur la balance négative du président de la République. Souvenez-vous que lorsque la RDC a quitté Saint-Sulpice, je commence juste par là, puisque je ne voudrais pas parler de l'époque avant Saint-Sulpice, le président de la République demande à l'UDP de ne pas se faire enrôler. Et c'était un premier échec. Il a privé par le même appel, n'est-ce pas, une plus grande partie du peuple congolais à ne pas participer dans les votes, surtout que le moment était un moment crucial. On devait renouveler la classe politique qui venait de la guerre. Il fallait qu'on puisse unifier les acteurs pour mettre en place une scène politique qui regorge des hommes qui sont quand même sans le sang des Congolais dans leurs mains. Et à cette époque-là, lorsque le peuple congolais faisait appel à lui, lui va faire un appel contradictoire pour dire non, on ne va pas s'enrôler, et c'est lui réclamer le rétablissement statique. Ça, c'était la première erreur. Mais c'est exemple, la deuxième erreur. En 2011, lorsque nous venons des élections, une fois encore, il va demander à ses élus de ne pas aller siéger. On s'est posé des questions. Il y a des Congolais qui ont voté pour le candidat UDPS, qui devait siéger pour présenter les préoccupations des Congolais à l'Assemblée nationale et au Sénat, à l'Assemblée nationale, disons. Mais il va encore dire que les gens ne siègent pas. C'était le site de Sami Badibanga, le premier ministre, et ça suit. Aujourd'hui, je dis encore, il y a une troisième erreur. La troisième erreur, c'est que lorsque nous sommes partis au dialogue, le 31 décembre 2016, on impose aux Congolais que le nom du président Tshisekedi soit inscrit dans l'accord. Alors que vous savez, dans les principes de rédaction des accords politiques, et même des traités et accords internationaux, les accords restent toujours unipersonnels. Donc, on n'était pas persuadé de l'accord. Voilà un peu quelques racines que j'ai retenues. Mais du côté politique, effectivement, comme les gens le disent, je me marie à cette idée-là, c'est que le président Tshisekedi, c'est une icône de notre démocratie. Il a eu à se battre son ancrage politique, le fait de rester un peu statique sur son point de vue et de demeurer dans son opposition contre tous les régimes qui venaient, a fait quand même que les Congolais ont dit attention, nous avons quand même quelqu'un qui se bat pour la démocratie d'accessible. Et cela nous restera les principes. Mais de toutes les façons, je me suis toujours posé une question, monsieur le journaliste. Et c'est quel a été le cartésien du président Tshisekedi ? Si le plan économique, qu'est-ce qu'il voulait ? Si le plan social, qu'est-ce qu'il voulait ? Si le plan même des relations internationales, qu'est-ce qu'il voulait ? Là où je me marie à l'idée de l'auditeur qui vient de parler avant moi, c'est que les époques ont été très différentes. Donc, à l'époque où nous sommes maintenant, où la démocratie est transgénérationnelle, je suis en train de me poser une question si le président Tshisekedi a laissé une cohorte des hommes politiques qui vont devoir continuer sa vision. Et c'est ça ma plus grande préoccupation. Mais du côté des enjeux qu'on doit retenir du président Tshisekedi, c'est quoi ? C'est qu'aujourd'hui, ceux qui ont accepté d'être collés par la pensée du président Tshisekedi, d'être appelés même Tshisekedi dans leur milieu, il faut alors qu'ils prouvent, n'est-ce pas, la qualité qu'on a vue dans le président Tshisekedi. Et je termine encore par dire, bye Tshisekedi, nous allons toujours passer à vous, puisque vous avez été grand pour les Congolais.
Voilà. Alors, merci beaucoup, Sylvain. Mais juste une question de curiosité. Est-ce que vous pensez, comme les autres, qui ont aussi droit de réflexion, estiment que, en ce moment, pour capitaliser les acquis de la lutte de Tshisekedi, il a fallu qu'on ait un vade-mecum, c'est-à-dire un projet de société qu'avait le président pour que les gens puissent les sanctualiser, qu'on puisse quand même s'approprier de ces idées pour aller plus loin, parce que maintenant c'est comme s'il y a un vide. Est-ce que vous partagez cet avis?
Non. Monsieur le journaliste, sans intention même de nuire à la société des présidents de ce pays, tellement je souscris aux gens qui pensent et qui croient que dans la matière des pensées et des conceptions, des projets de société pour une communauté, il n'y a pas une pensée unique. Donc je ne crois pas comment faire évader mes comptes. Dans un milieu, disons, dans une société très dynamique, dans une société transgénérationnelle qui change à tout moment, à tout vent, il va falloir qu'il y ait des stratèges à tout moment pour configurer les comportements ou les enjeux politiques par rapport à ces changements-là. Et donc, je ne pense pas qu'on va prendre les idées qu'ont énoncées, disons, qu'a énoncé le président Tshisekedi et les configurer dans une approche de la politique dynamique de ce pays et même de ce monde. Je crois que c'est ce qu'on peut faire pour lui. C'est que quand même quelques lignes directrices de sa pensée, de sa doctrine, qu'on trouve d'ailleurs dans la charte de l'UDPS, de son parti, pour voir si jamais ceux qui sont restés dans sa liste puissent continuer à les prêcher, pour que si désormais un jour l'UDPS prend le pouvoir, et qu'effectivement on voit le sens du progrès social qui est collé à ce parti politique, soit une réalité qui doit être vécue par la population. Voilà moi ce que je pense, mais il n'y a pas une idée fixe.
On doit se faire. Merci.
On va créer Vabnecom ou une confession. Je dis non. Je ne pense pas que.
Merci beaucoup, Sylvain. On va prendre Cyril qui est à Bandoudou. Cyril, voilà, donc la bonne gouvernance, c'était d'ailleurs le cheval de bataille du président de l'UDPS. Aujourd'hui, est-ce que vous estimez comme les autres, Cyril, que cette lutte pourrait continuer gagner dans la mesure où, disons, on assistera à une cohésion d'ailleurs au sein de l'UDPS pour ceux qui resteront en vie. Est-ce que vous partagez cet avis?
Bonjour, messieurs les journalistes, bonjour à la Radio Capi et bonjour au peuple congolais qui nous suit en ces moments. Merci, monsieur le journaliste. Je voulais de prime abord apporter un collectif. Le président Étienne Tshisekedi dit que le président de l'UDPS est simplement. Il n'est pas le président, je ne sais pas de quel parti politique ou de la République du Congo. C'est le président de l'UDPS. Il engage dans ses propos que l'UDPS, qui est un parti politique de l'opposition. Ça, c'est un. Secundo, je veux le dire ici, et que, on dit souvent qu'il est le père de la démocratie congolaise. Non, il n'est pas le père de la démocratie congolaise, mais il est parmi les gens qui ont lutté pour que la démocratie soit effectivement exprimée dans notre pays, la RDC. Ça, c'est le deuxième moment. Et pour répondre à ta question, monsieur le journaliste, la bonne gouvernance, c'est bien. Mais quand on gouverne, on dit gouverner, c'est prévoir. Diriger, c'est aussi prévoir. Et depuis qu'il a eu à prôner sur la bonne gouvernance, quelles sont les prévisions pour remonter les Congos dans ces chaos que lui avait déjà prôné? Il doit nous dire en ces moments, même ceux qui l'ont laissé. Je crois qu'ils doivent nécessairement nous aider à nous éclairer que M. Tshisekedi, président de l'UDPS, avait dans sa lutte prévu ça et ça et ça et ça. On n'en a pas connu jusqu'à maintenant. Il a prôné sur la bonne gouvernance, ça c'est l'enquête. Je crois que ça c'est, sauf dans votre propos, en tout cas je crois que ça vous engage. Moi en tout cas, personnellement en tout cas ça ne m'engage pas. Parce que la bonne gouvernance c'est quoi? La bonne gouvernance. Moi je pense que sur la notion de la bonne gouvernance, monsieur le journaliste, on doit être clair. Monsieur Tien Tshisekedi n'a pas aidé le peuple congolais à pouvoir aller de l'avant. Pourquoi? Et tout qui prend sur la bonne gouvernance, et c'est celui-là qui est dans l'obligation de demander aux gens de ne pas aller aux élections, de ne pas accepter le référendum, de ne pas voter, de ne pas s'enrôler, de ne pas faire ceci, d'aller ici, cela. Non. Je pense que dans un pays démocratique, là où il y a la bonne gouvernance, on doit prôner tout ce sur la paix des gens.
Merci beaucoup.
Donc,
merci
d'abord, je lance, en tout cas, mes sincères condoléances à la famille biologique du président de l'UDPS et aussi à sa famille politique qui est du l'UDPS. Bien sûr, monsieur le journaliste.
Merci beaucoup, Cyril.
Moi, j'aimerais bien.
Merci beaucoup, Cyril. On a beaucoup d'auditeurs qui attendent à intervenir. Il est temps pour nous, d'ailleurs, de revenir un peu à l'ambassadeur Kemal Lilo. Et puis, on va retrouver également un professeur Tunisia, qui est accueilli dans la région à ce niveau du débat. Monsieur l'ambassadeur Keba, vous venez de suivre là quelques auditeurs qui ont contribué dans cette émission. C'est vrai, il y a des pensées également très positives par rapport à la lutte. Et il y a aussi quelques préoccupations, des appréhensions des uns des autres sur quelques ratés aussi dans la lutte qu'ils ont évoquée. Est-ce que vous avez eu la même impression, ambassadeur, lorsque vous avez eu l'état peut-être de faire cette passerelle, j'aurais bien attention sur ça.
Oui, je crois que ce que les gens disent, ils ont observé, ils ont constaté, ils ont vécu. Moi aussi, j'ai vécu quelques ratés, c'est vrai. Plutôt des ratés parce que il faut éviter de juger le président de ce qu'il dit aujourd'hui. Parce que les contextes sont tout à fait différents. À l'époque, lorsque le président Mobutu m'a appelé, moi je travaillais à l'étranger, que j'ai été appelé pour discuter avec lui, parce que le président Mobutu avait appris que mon nom passait bien dans le milieu de l'opposition. Et c'est comme ça qu'il m'a appelé, il me l'a présenté, nous étions en Guadeloupe. La première chose que je lui ai dit, c'est qu'il m'a dit, il dit, mon petit frère, je sais que tu es le collaborateur du président Mobutu, mais sache que son temps va finir. J'ai dit, bon, vieux Étienne, parce que je l'ai toujours accueilli jusqu'à sa mort, vieux Étienne. Tu sais bien que moi, je connais mon camp et je ne changerai pas. C'est ce que je lui ai dit. Nous avons rigolé. Et à deux, nous nous sommes entendus. Là, nous étions à Guadeloupe. Nous nous sommes entendus que nous puissions quitter Guadeloupe pour aller discuter en dehors de Guadeloupe. Parce que à côté, et dans le village du président Mobutu, on subissait une sorte de pression morale. Même s'il n'y avait pas une pression physique, mais morale. Et nous nous sommes déplacés. Nous sommes allés, nous avons choisi d'aller continuer notre discussion. Je pense que nous sommes allés à Lubumbashi à l'époque. Voilà. J'ai entendu tout ce qu'on a dit sur le président Tshisekedi, mais les époques, les contextes aussi sont différents. Il faut retenir de M. Tshisekedi le souci de la démocratie. M. Tshisekedi, je vous ai dit quand je suis intervenu, ne cherchait pas le pouvoir de Mobutu. Il ne cherchait pas à prendre le pouvoir, à remplacer Mobutu. Ça, je n'ai pas retenu dans les
discussions.
Il cherchait, lui, à asseoir la démocratie. La démocratie proprement dite. C'est-à-dire qu'il y ait plusieurs partis dans le pays pour que le peuple ait le choix entre plusieurs partis, plusieurs idéologies, plusieurs personnes. Ça, c'était son
appel.
Son cheval
de bataille.
Il ne cherchait pas à remplacer Mobutu.
Voilà. Voilà, merci beaucoup, ambassadeur Kemalilo, de nous avoir raconté ces moments forts de l'histoire de Étienne Tshisekedi, lorsque vous étiez en train de faire la passerelle entre lui et le président Mobutu. Et encore merci, je crois que le deuil continue jusqu'à l'arrivée du corps ici à Kinshasa. Nous allons encore revenir sur d'autres thématiques relatives à notre façon de rendre hommage à cet illustre disparu. Voilà, merci beaucoup ambassadeur d'avoir répondu à notre invitation et nous avons pu à pied lever ce matin. En tout cas, merci de votre promptitude avec laquelle vous avez accepté notre invitation. Il faut encore merci, à très bientôt.
Je vous en prie, je voulais simplement exprimer mes condoléances à la famille biologique. J'ai d'autres voix, mais je le fais publiquement à la famille politique et à tous ceux qui, à l'époque, ont soutenu le président Tshisekedi dans sa lutte.
Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Alors, on va poursuivre avec vous, Félicien, vous nous avez rejoint, et puis le professeur Koutoumissa, qui est en train de développer quand même une pensée sur le président de l'IDPS, question de lui rendre quand même hommage. Professeur Koutoumissa, vous nous avez rejoint, bonjour.
Bonjour.
Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir de votre pensée, la pensée que vous développez autour de président Étienne Tshisekedi? C'est l'occasion, faisant les larrons, nous lui rendons hommage.
Merci beaucoup. Je commence, comme tout le monde, par mes condoléances à la famille, à l'UDPS et au Rassemblement, duquel je fais partie par ailleurs. Et la nouvelle m'a trouvé au lit, malade, ça m'a créé une tension, j'ai cru à un moment donné que, eh bien, j'allais en mourir, eh bien, ça va mieux maintenant. Je voudrais intervenir un peu dans le sens de l'ambassadeur, Kima, parce que aujourd'hui, beaucoup de gens font l'opposition. Mais ce n'est pas comme dans le temps, à l'époque de Mobutu. Tshisekedi était le premier à faire cette opposition. dans le temps, à l'époque de Mobutu, vous essayez ça, vous disparaissez.
Mm-hmm.
Vous disparaissez littéralement. Nous, là, on nous arrête, bon, on va en prison, parfois on est un peu soigné. Mais à l'époque de Mobutu, on disparaissait. Et celui qui était le premier à faire cette opposition sans craindre qu'il puisse disparaître, eh bien, c'est Tshisekedi.
Ben, ils étaient 13, les 13 parlementaires.
Oui, oui, bon, il y a toujours des leaders dans une affaire, hein, même si vous êtes 13. Il y a des gens qui ont conçu, il y en a qui ont écrit, et ainsi de suite. Je crois que l'histoire là-dessus ne se trompe pas, c'est bien M. Tshisekedi qui était le chef de cette opposition-là.
Et plusieurs fois relégué à son village, plusieurs fois tabassé, plusieurs fois emprisonné.
Voilà, et c'est là où beaucoup de gens parlent de constance, parce que ce n'est pas parce qu'il a été tabassé qu'il a été... mise en prison, qu'il abandonne la lutte. Donc c'est quelque chose de très important. Et la longévité de cette opposition dont beaucoup de gens parlent, mais on doit savoir que c'est chaque fois que la démocratie est en difficulté que M. Tshisekedi se dresse comme le rempart contre la dictature. Et c'est ça qui justifie que depuis le président Mobutu, en passant par Zé aujourd'hui, puisque la démocratie n'est pas revenue comme on l'aurait souhaité, eh bien, M. Tshisekedi, vous le trouvez sur votre chemin si vous mettez en mal la
alors, démocratie. Alors prof, comment prévoyez-vous l'avenir? Parce que c'est là la grande question aujourd'hui. Et comment arriverons-nous, en tout cas la génération actuelle, la jeunesse qui est là, à pouvoir capitaliser les acquis que vous venez d'évoquer? Aussi, l'ambassadeur venait de évoquer aussi la grande qualité, et puis, bon, qui ne se laissait pas intimider, qui avait la vérité en lui, et qui ne se laissait pas corrompre, voilà tout ça, comment le capitaliser? C'est possible.
Merci bien. Je voudrais d'abord que nous puissions capitaliser ce qu'il a déjà fait. À mon avis, l'une des manières de pouvoir consacrer le travail de Tshisekedi, c'est que les Congolais se mettent ensemble pour aller faire que M. Tshisekedi devienne un prix Nobel de la paix. Le travail qu'il a fait ici, dans ce continent congolais, n'est pas moins important que celui que bien d'autres prix Nobel de la paix ont fait ailleurs. Tshisekedi n'a jamais cherché à aller faire une rébellion quelque part pour entrer au pouvoir, jamais. C'est toujours dans la non-violence, et ce n'est pas à cause de quelques cailloux que les jeunes gens jette sur les policiers que ça devient de la violence, non. Donc, l'une des bonnes manières, à mon avis, c'est de faire que nous nous réunissions pour que Tshisekedi puisse avoir le prix Nobel de la paix.
Mm-hmm.
Ça, j'estime que c'est important. C'est la manière mondiale de reconnaître son œuvre. Vous avez vu comment, à travers le monde, sa mort a bougé. Donc, c'est quelqu'un qui,
dont le combat
a été suivi par pratiquement tout le monde.
Est-ce que vous estimez aussi que aujourd'hui, la suite en fait de son combat, la continuation de son combat et même la continuité, si vous voulez, repose sur la cohésion au sein de l'UDPS ou encore de sa famille politique?
Oui, bon, Tshisekedi n'appartient plus uniquement à l'UDPS, vous le savez, d'abord c'est le président du Rassemblement, et puis c'est le président de tous ceux qui s'opposent à la dictature. Quant à continuer le combat, d'abord nous le continuons politiquement, à l'intérieur du groupe qu'il a laissé, et puis chacun d'entre nous, là où il travaille, il doit mettre à l'avant-plan les valeurs que Tshisekedi nous a enseignées. Par exemple, le caractère incorruptible. Je suis à l'université de Kinshasa, je fais tout ce qui est à mon pouvoir pour que chaque étudiant apprenne ses valeurs. Moi-même, je les applique chaque fois. Lorsque j'ai été à l'éducation nationale, j'ai appliqué cela. Vous avez vu comment on a lutté contre la fonte de diplômes, contre la corruption. Je crois que nous sommes là et M. Tshisekedi peut reposer en paix. Nous allons poursuivre son travail.
Merci beaucoup, professeur Koutoubissa Kiota, d'avoir accepté de participer à cette émission. On va poursuivre et à très bientôt. Lorsque nous reviendrons encore sur le sujet avant l'arrivée du corps cette semaine, ou peut-être bon, quand on nous donnera officiellement le programme. Merci beaucoup, professeur Koutoubissa, d'avoir accepté notre invitation et encore merci d'avoir accepté avec promptitude de répondre aux préoccupations des uns et des autres. Alors, on va poursuivre avec vous. Félicien, vous êtes à Kinshasa. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, Gérard. Bonjour à l'invité. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi.
Voilà. Quelle est votre contribution à ce niveau du débat, Félicien?
Oui, mais qu'est-ce que je peux dire, Gérard, après toutes ces grandes personnalités de notre pays qui ont connu l'histoire de la dictature et l'ambassadeur Nkema qui venait de passer tout à l'heure. Et là, les procès, Kotunisa et tout ça. Non, ils ont presque vidé tout ce que je devrais dire. Mais ce que je retiens, que Tshisekedi dit, c'est parmi les rares hommes sur cette terre qui abandonnent leurs privilèges. Et pour seulement, et parce que l'esprit d'abnégation, ils abandonnent leurs privilèges pour servir l'intérêt national, l'intérêt général. Comment pouvez-vous imaginer un homme qui a travaillé depuis son jeune âge, 28 ans, il est déjà ministre, et il a mangé, il a bu, il connaît ce que c'est les honneurs, ce que c'est les privilèges d'être au pouvoir, les avantages, mais un jour, il trouve que c'est pas bon ce qu'ils sont en train de faire, lui et ses amis, en train d'avoir tout et le peuple dans la misère, le pays en train de sombrer et tout ça, et lui abandonne ses privilèges à vouloir pour devenir quelqu'un qu'on doit tabasser chaque jour, qu'on doit reléguer chaque jour, qu'on doit prisonner chaque jour, alors que les autres continuent dans cette gloire-là, dans ces avantages-là, et vivre heureux et tout ça, et mourir heureux. Mais lui, c'est cet aspect-là que moi je retiens. Parce que si tout Congolais peut comprendre cela, comprendre que c'est parce que nous n'avons pas l'amour des autres, c'est parce que nous n'avons pas l'amour de la patrie, que nous ne faisons pas quelque chose pour que les choses changent, mais lui au moins avait compris, et lui devrait être un modèle. Et pour moi, il est un modèle. Parce que moi, dans mon milieu où je vis, dans mon milieu où je travaille, j'essaie de faire ce que je peux faire, même si ce n'est pas grand. Parce qu'il faut commencer par les petites choses.
Voilà. Est-ce que Félicien, vous partagez la vie?
Vous venez de cette référence-là,
oui.
Ce modèle-là, pour qu'on sache à qui on a affaire.
Merci beaucoup. Alors, il y a une révélation qui nous a été faite tout à l'heure, d'ailleurs, au cours de cette émission, avec par le professeur, l'ambassadeur Nkema Lilo, qui nous a fait revivre, au fait, sa rencontre lorsqu'il faisait encore la passerelle entre Mobutu et Tshisekedi. Un jour, ils se sont retrouvés à Guadolité, et c'était quelques années avant que l'arrivée l'avènement de l'Afdel, il annonça à Nkema Lilo et lui demanderait d'aller dire à Mobutu que ce dernier était pratiquement à la fin de son règne. Donc, est-ce qu'on peut dire que, comme l'ont dit certains auditeurs dans leur message, qu'il s'agissait d'un visionnaire, qu'il s'agissait d'un esprit, qu'il s'agissait de quelqu'un qui avait la pensée positive. Est-ce que vous partagez cela, Félicien?
Oui, parce que c'est ce qu'il dit quand vous voyez tout ce qu'il a fait. Les gens ont dit non, Tshisekedi n'a pas raison, dans chaque chose n'a pas raison. Et en fin de compte, les jours passent, c'est Tshisekedi qui a raison. On vient de constater après que non, Tshisekedi l'avait déjà dit. Et si on avait suivi, Tshisekedi l'avait déjà dit, si on avait respecté ça. Et tout le temps, on lui donnait toujours raison quand ça ne marchait plus. Mais il le disait toujours avant, mais personne ne voulait l'écouter. Mais regardez un peu aussi ce genre d'homme-là, si lui
On lui propose même les armes. Il refuse de prendre les armes. On lui donne le pouvoir pour gouverner. Il refuse d'avoir le pouvoir pour le pouvoir tant qu'il n'a pas tous les moyens pour mettre en place sa politique qui puisse servir le peuple.
Merci.
Banque centrale. Il est premier ministre. Il faut qu'il gère la banque centrale. Il faut qu'il gère le ministère de l'Intérieur et tout ça. Parce qu'il dit, le ministre, ça ne suffit pas. Parce que j'aurai tout ce que je peux avoir, mais je ne mettrai pas ma politique relative au social et à la démocratie. Parce que les policiers continueront toujours à bastonner le peuple et les libertés seront toujours restreintes.
Voilà.
Lui, il voulait.
Voilà, on a vraiment des questions avec vous. Merci beaucoup, Félicien. On va accorder quand même la parole à Maître Bita. Maître Bita, vous êtes avec nous?
Oui, je vous écoute.
Alors, il y a tout à l'heure professeur Koutoubita qui a proposé quand même pour pérenniser les acquis la lutte de Serge Tshisekedi. Pourquoi pas faire de lui un prix Nobel de la paix?
Ah oui, justement, monsieur Epiro, avant d'aborder le sujet, j'adresse mes condoléances à tous les peuples congolais, à moi-même, frustration que j'ai ressentie après avoir appris de la mort d'un acteur clé de la démocratie de notre pays. Nous le savons depuis 1960 jusqu'à ce jour, jusqu'au 1er janvier. J'allais dire de la mort d'Étienne Tshisekedi. Depuis notre enfance, nous avons suivi, nous avons attendu parler de ces noms. Un nom qui réclamait la démocratie dans notre pays, un nom qui réclamait le progrès social et la bonne gouvernance pour la gestion de la cité, donc l'État congolais. Revenant à votre question, M. Pierrot, il est au-delà de ce que le professeur Koutoumi a dit. Moi, j'ajouterais que les acquis, en termes des acquis, la jeunesse congolaise doit d'abord retenir l'histoire de notre pays, qui a participé activement en rapport avec la démocratie. Un autre acquis, c'est que la jeunesse congolaise doit toujours avoir dans sa mémoire la personne de Tshisekedi en termes de combat politique. Le combat politique de Tshisekedi dans notre pays n'est pas apporté. Oui, effectivement, il y a des faiblesses. Là, on les concède. Mais moi, je dirais que M. Pierrot, M. Tshisekedi avait une vision. Il avait l'information. Il luttait contre les imposteurs. Il luttait contre les opportunistes. M. Pierrot, souvenez-vous, à Saint-Sipi, à 1-4, et M. Tshisekedi avait une place de choix pour la gestion de notre pays autour de notre président actuel. Mais nous avons vu certains acteurs de notre pays qui étaient sortis, qui étaient considérés aujourd'hui comme opportunistes, qui avaient pris place de Tshisekedi comme vice-président. Il a consenti. On reproche à M. Tshisekedi d'avoir interdit les gens d'aller s'enrôler en 2011 pour les élections. Non. Je disais ici, et M. Tshisekedi avait l'information sur la gestion d'autres pays. Le leadership politique de M. Tshisekedi avait une occupation nationale. Pourquoi pas internationale? Parce qu'aujourd'hui, nous avons suivi sur vos antennes qu'en Belgique, les autorités belges sont venues s'exprimer. Les partis socialistes sont venus s'exprimer devant sa doute mortelle. Tous les peuples congolais se trouvant à l'extérieur de notre pays l'ont fait. Son mémoire du combat noble pour la bonne gouvernance, pour le progrès social, pour la démocratie dans notre pays. Un autre acquis, M. Pierrot. M. Tshisekedi a fait face au chef de l'État Mobutu, qui avait toute une armée redoutable dans notre pays, dans notre Afrique. L'Angola aujourd'hui, on dit que c'est une armée forte. Une armée forte dans le pays. N'a pas écalé le test de Mobutu. Nous avons les films, mais vous reprenez des séquences de man
voilà. Alors, je comprends que vous avez toute une gibecière des acquis. En bref, donc on dira la constance, quelqu'un qui a lutté pour la bonne gouvernance et le progrès social. Alors, comment les capitaliser? Pierre, vous nous avez rejoint le machine, vous avez une minute avant qu'on puisse conclure cette émission. Pierre, vous nous avez suivi. Bonjour. Monsieur Pierre, vous êtes avec nous? Voilà, on a des petits soucis avec la ligne de Pierre, et puis il est temps de découvrir encore quelques messages qui nous ont été envoyés. Il y a Luc Malembe qui dit ceci depuis Bounia, de la part de Sylvain. Il dit, contrairement à ce que pense Mokili Mungunuti David, le président de l'UDPS, et c'est ce qu'il dit, n'est pas démocrate, pourquoi plusieurs UDPS, voilà, j'ai Paris que lui-même n'a pas assuré l'esprit d'alternance. David Loyoko, les gens rendent hommage et couronnent les héros à titre posthume que pendant la mort, mais pendant sa vie, on les traitait de tout le monde. C'est l'occasion réellement de faire de lui un prix Nobel. Maxime Kabila à Lubumbashi, pour moi, Étienne Tshisekedi, c'est une grande perte pour ce pays. Le jour où j'apprenais la nouvelle de sa mort, j'ai dit adieu. Seigneur, ne fallait-il pas que dans ta compassion accordée à Tshisekedi ne fût-ce que 2017 pour qu'il voit comment et combien le pays est en train de se transformer. Ceci parce qu'au regard des enjeux actuels, Tshisekedi ne pouvait pas mourir en ce moment. C'est une période que traverse difficilement le pays. Voilà. Merci beaucoup. Vous êtes nombreux à nous avoir écrit. Surtout, déposez vos commentaires sur notre page Facebook. Nous vous en remercions infiniment. Donc, et par ici que nous mettons un terme à cette émission. Toujours hommage à Étienne Tshisekedi, qui s'est fait le plaisir de recevoir l'ambassadeur Kema Lilo, conseiller spécial de président Mobutu à l'époque, et qui faisait la passerelle entre Mobutu et Tshisekedi. Et dans cette même émission, nous avions associé dans cette échange citoyen professeur Koutoumissa Kiyota, qui depuis un certain temps développe la pensée à capitaliser d'Étienne Tshisekedi. À très bientôt pour un autre numéro.